Une explosion, un coup de grisou venait d'avoir eu lieu dans la mine de charbon. Les secours s'organisèrent rapidement et les sauveteurs se mirent à l'œuvre, dégageant tous les gravats qui les séparaient des hommes emprisonnés au fond de la mine. Après plusieurs heures d'efforts, ils les atteignirent et leur premier souci fut de rétablir le courant électrique. Tout le monde paraissait sain et sauf. Mais l'un des mineurs dit alors « Pourquoi ne remettons pas la lumière ?» Tous les autres le regardèrent avec effroi car ils comprirent que l'explosion l'avait rendu aveugle. Tout comme ce mineur, Ninive avait connu la lumière quand le prophète Jonas était venu les menacer du jugement de Dieu. Alors, ses habitants s'étaient repentis de leurs mauvaises œuvres. Mais cela n'avait guère duré et les Assyriens étaient rapidement retombés dans leurs vices habituels. Jésus a dit « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres ?» Comme la lumière que Ninive avait reçue était devenue ténèbre, sa condition présente était pire qu'avant que Jonas ne vienne, ce qui la rendait mûre pour le jugement. Je finis de lire le second chapitre du livre de Nahum. « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux. J'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. » Verset 14. Il est certain que la destruction de Ninive aura lieu parce que c'est Dieu lui-même qui la dirige. L'expression « j'en veux à toi » apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament, et elle est toujours dirigée contre une ville ou un roi et son peuple. C'est ainsi que l'Éternel menace Jérusalem et Juda, Babylone, Tyr et Sidon, les deux principales villes phéniciennes, Édom, où habitaient les descendants d'Ésaü, le Pharaon, Gog et Magog, et deux fois Ninive. L'hostilité de Dieu contre l'Empire assyrien est très forte. Il va mettre le feu à ses chars de guerre, c'est-à-dire à toutes ses armes. Il va aussi tuer ses jeunes lions, c'est-à-dire les soldats, et délivrer toutes les nations de l'impérialisme du roi d'Assyrie dont la fin a été décrétée. Il n'enverra plus jamais d'émissaires qui faisaient trembler les peuples avec leurs menaces, qui ordonnaient aux nations de capituler et leur imposaient un lourd tribut et qui blasphémaient l'Éternel. Ceux qui dévoraient seront dévorés à leur tour et il ne restera plus rien de Ninive. Nous arrivons au chapitre 3 du livre de Nahum qui poursuit la sentence de jugement. La description de la destruction de Ninive est toujours très imagée, le langage particulièrement vigoureux et les émotions intenses. Je commence à lire. « Malheur à toi, ô ville qui te repaît de sang, ville où tout n'est que fraude et extorsion, qui ne met pas de terme à toutes ces rapines. » Verset 1. Le mot « malheur » est une interjection qui annonce une catastrophe imminente. Nahum précise les raisons pour lesquelles Ninive est détruite par l'Éternel. C'est une ville de sang qui le versait sans aucune retenue. Mais ce n'était pas la seule ville qui faisait cela. En effet, et assez curieusement, Dieu fera les mêmes reproches à Jérusalem disant « Malheur à la ville meurtrière, marmite couverte de vert-de-gris, et dont le vert-de-gris ne s'en va pas. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel déclare ceci. Malheur à la ville sanguinaire. Moi aussi, je dresserai un grand bûcher. » À Babylone aussi, Dieu reprochera le sang versé, disant « Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime. » Les annales assyriennes nous font découvrir que jamais peuple ne fut aussi rapace dans ses conquêtes, aussi tyrannique dans son gouvernement, aussi cruel dans ses guerres et dans la répression des révoltes. La seule résistance de la part d'une ville attaquée était traitée comme un crime de lèse-majesté et punie avec la pire des barbaries. Les chefs de la ville étaient écorchés vifs ou empalés. La cruauté des Assyriens est attestée par des monuments sur lesquels on voit ou lit comment les prisonniers de guerre étaient empalés, écorchés vifs, décapités, traînés par des anneaux passés dans leurs lèvres, pendus par les mains ou les pieds, ou avaient les yeux arrachés. D'autres étaient battus à mort ou avaient leur langue, leurs membres arrachés, les oreilles et le nez coupés. Les inscriptions royales exultent en mentionnant le nombre d'ennemis tués, de captifs déportés, de villes laminées, pillées puis brûlées, de terres dévastées et même d'arbres fruitiers coupés. C'était vraiment de la barbarie gratuite pour le plaisir d'être méchant et cruel. Non seulement Ninive était une ville qui se repaissait de sang, mais Nahum lui reproche aussi d'être plein de fraude et d'extorsion. Ayant compris que la fourberie est un raccourci vers le succès, les Assyriens avaient perfectionné l'art de la traîtrise. Pour étendre leur hégémonie, conquérir de nouvelles nations et amener des peuples à se soumettre à eux sans combattre, ils faisaient des promesses qu'ils ne tenaient évidemment pas. De toute évidence, ce fut la tactique de l'émissaire du roi, Rabshaké, quand il a dit au messager d'Ézéchias, roi de Juda, « Voici ce que vous propose le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi. Alors, chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de son puits, en attendant que je vienne vous emmener dans un pays pareil au vôtre. » Un pays où il y a du blé et du vin, du pain et des vignes. Étant donné leur puissance militaire, les Assyriens n'étaient pas obligés d'user de tromperies pour étendre leur empire. Ce comportement, tout comme la cruauté envers les vaincus, faisait partie de leur soif insatiable de pouvoir, de dominer les autres nations par n'importe quel moyen, car ils n'avaient que du mépris pour les autres peuples. En troisième lieu, Nahum reproche à Ninive ses rapines sans fin. Le mot pour rapine peut aussi être traduit par « découpé en lanières », ce qui correspond à la manière dont les lions dévorent leur proie. Ninive accumulait les richesses pillées sans jamais s'arrêter car elle n'en avait jamais assez. Cette soif de posséder était tellement importante pour les Assyriens qu'ils décoraient leurs monuments avec des scènes montrant le butin des nations vaincues emmenées à Ninive. Je continue le texte. Fouet qui claque, fracas des roues, des chevaux au galop, déferlement de chars, charge des cavaliers, flamboiement des épées, éclair des lances, blessés sans nombre, amas de corps, à perte de vue des cadavres, on trébuche sur eux. Versets 2 et 3. Pour bien rendre la rapidité de l'action qu'il observe dans sa vision prophétique, Nahum utilise une succession d'exclamations brèves sans utiliser de verbe. Les chariots de guerre étaient tirés par un, deux ou trois chevaux et le fouet était constitué d'un simple bout de cuir attaché à un manche. Nahum décrit l'avance de l'armée conquérante et plus particulièrement la cavalerie. Il entend d'abord le bruit lointain du claquement des fouets des conducteurs de chars de guerre, celui des roues qui bondissent sur les chemins accidentés et le galop saccadé des chevaux lancés à toute vitesse. Le bruit se rapproche, l'armée apparaît, les fantassins brandissent leurs épées ou leurs lances, la bataille s'engage. À peine a-t-on eu le temps de voir arriver les armées des Mèdes, des Babyloniens et des Scythes que tout est déjà fini. Ils ont déferlé comme un tsunami, ne laissant derrière eux que des monticules de blessés et de cadavres. Ces derniers sont tellement nombreux qu'on ne peut pas éviter de trébucher sur eux. Même les envahisseurs sont freinés dans leur avance par cet amoncellement de victimes. La scène décrite par Nahum est pire que les champs de bataille napoléoniens ou la boucherie de la guerre de tranchées de 14-18. Parfois, je me demande que sont devenues les âmes de ces jeunes gens qui avaient 20 ans à peine et qui sont tombés au champ d'honneur, comme on dit. Je n'ose pas trop y penser. Je continue le texte. Tout cela, c'est à cause des nombreuses débauches de la prostituée à la beauté si séduisante, experte en sortilèges, qui asservissait les nations par ses prostitutions, de même que les peuples par ses enchantements. Verset 4. Cette accusation portée par Nahum contre Ninive en rappelle une autre, celle de Jéhu qui devint roi d'Israël Nord contre Jézabel, mère de Yoram, roi de Juda. Dans ce passage, Jéhu dit à Yoram, « Comment peut-il être question de paix tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses innombrables pratiques de sorcellerie ?» Quand les prophètes de l'Éternel appellent l'idolâtrie une prostitution, ils adressent le reproche au peuple d'Israël parce qu'il abandonne son Dieu pour suivre les idoles. Appliqué à Ninive, ville païenne, le terme prostitution a deux sens. Premièrement, il a la même signification que pour Israël et pour tout homme qui n'adore pas l'Éternel parce que, comme Paul l'écrit aux Romains, « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. » Fin de citation. Il importe peu que quelqu'un soit juif, assyrien ou français, que nous soyons nés catholiques, protestants, musulmans ou autre chose. Nous sommes tous logés à la même enseigne et devons tous adorer notre Créateur et lui seul. Les Assyriens partaient en guerre au nom de leur fausse divinité et leur roi disait être sous l'influence et la protection de leur dieu. Partout où ils allaient avec leur armée, ils prenaient grand soin d'ériger les symboles de leurs idoles, puis ils obligeaient les peuples conquis à les adorer. De plus, le culte que les Assyriens vouaient aux faux dieux était souvent accompagné d'une immoralité tellement grotesque que même l'historien grec Hérodote, qui n'avait pourtant rien d'un puritain, la qualifiait de « totalement indigne ». Le temple, dédié à Ishtar, la déesse du sexe et de la guerre, comprenait bon nombre de prostituées sacrées et il était particulièrement populaire et très fréquenté. À vous d'imaginer pourquoi. Deuxièmement, Ninive s'est encore prostituée d'une autre manière par la fascination que la ville exerçait sur les peuples à cause de sa splendeur et magnificence inégalée, à cause de ses charmes, sa puissance, sa richesse, sa culture et la perfidie avec laquelle elle traitait tous ceux qui tombaient dans son giron. Par la traîtrise et une politique de fourberie, Ninive piégeait les autres nations. Elle attirait à elle les hommes par la force ou la ruse afin de les assujettir et les soumettre à ses dieux. Quand une nation séduite par les enchantements de cette capitale se livrait à elle, Ninive en retour, parfois, la trahissait sans pitié en vendant ses habitants comme esclaves. Les Assyriens pratiquaient la sorcellerie. Ils possédaient des centaines d'incantations grâce auxquels ils essayaient de prédire l'avenir et d'influencer le cours de la vie. Ils lisaient des présages dans les vols d'oiseaux, dans les mouvements des animaux et des nuages, ainsi que dans les rêves. Je continue le texte. « Je vais m'en prendre à toi, l'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes, et je vais retrousser tous les pans de ta robe jusque sur ton visage. » Je t'exhiberai nu à toutes les nations. J'exposerai ta honte devant tous les royaumes. » Verset 5. L'Éternel se dresse contre Ninive comme il le fait contre toute nation ou individu qui méprise l'autorité divine et la valeur de la vie humaine. Le même jugement sera prononcé plus tard contre Jérusalem, puis contre Babylone. Ninive, la prostituée, subira un traitement infamant et sera dépouillée de tout ce qui faisait ses charmes. Les actes odieux qu'elle a commis contre les autres nations seront payés en retour par sa mise à nu, c'est-à-dire sa destruction et le pillage de toutes ses richesses. Dépouillée de tout son luxe, elle sera insultée et offerte en spectacle au monde. C'est un peu le sort qu'ont subi après la fin de la Seconde Guerre mondiale les femmes qui avaient fricoté avec les nazis. On leur rasait la tête et à peine vêtues, on les exposait dans les rues aux habitants et aux passants qui les raillaient. Je continue le texte. « Je jetterai sur toi des masses d'immondices et je t'avilirai, je ferai de toi un exemple. » Verset 6. Le mot pour immondice est utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner tout ce que l'Éternel considère comme détestable. Ce traitement avilissant doit servir d'exemple afin que jamais plus aucune autre nation ne se comporte comme l'Empire assyrien. Pourtant, il a été suivi par Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, les empires européens, les petits chefs africains ou orientaux qui se prennent pour le potentat dernier cri, et ça ne finira jamais car la stupidité humaine, ses convoitises et son potentiel à mal faire n'ont pas de limite. Cependant, le jour vient où Dieu tirera enfin le rideau et Jésus reviendra pour instaurer et imposer son règne de 1000 ans sur le monde entier. Mais jusqu'à cette date, prévue dans le calendrier divin, tout continuera comme aujourd'hui. Malgré les beaux discours qu'on entend ici et là, il ne faut pas s'attendre à voir d'amélioration sensible dans aucun domaine. Les hommes continueront à crier « paix, paix », mais, a dit l'Éternel, « il n'y a pas de paix pour les méchants ». Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas dénoncer les injustices. Au contraire, parce qu'ils sont le sel de la terre, les croyants doivent utiliser tous les moyens légaux pour faire cesser les injustices. Cependant, la justice ne régnera pas d'un horizon à l'autre avant que Jésus ne vienne l'établir. Je continue le texte. Tous ceux qui te verront s'enfuiront loin de toi en criant « Ninive est détruite ! Qui aurait pitié d'elle ? Pour toi, où chercherais-je des gens pour te réconforter ?» Verset 7. Comme tous les peuples ont eu à souffrir de la cruauté des perfidies de Ninive, nul ne lui viendra en aide et tous l'abandonneront comme on se détourne de tout ce qui inspire le dégoût. De plus, ceux qui auront profité de ses richesses la regretteront, mais ne voulant pas être éclaboussés par sa ruine, ils se tiendront à une bonne distance. C'est aussi ce qui se passera pour la Babylone qui, à la fin des temps, renaîtra de ses cendres. Quand elle tombera, il est écrit que les rois de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleureront et se lamenteront sur elle en voyant monter la fumée de la ville embrasée. Ils se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ses tourments. « Malheur, malheur !» gémiront-ils. « La grande ville, ô Babylone, ville puissante, une heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. » Les marchands de la terre, eux aussi, pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Les objets de tes passions ont fui bien loin de toi. Raffinement et splendeur sont perdus pour toi. Plus jamais on ne les retrouvera. Les marchands qui s'étaient enrichis par leur commerce avec elle se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ses tourments. Ils pleureront et mèneront deuil. Ils diront « Quel malheur, quel malheur ! La grande ville qui se drapait de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. » Fin de citation. Les oracles de Nahum contre Ninive sont donc repris et réactualisés dans le livre de l'Apocalypse avec d'autres oracles des prophètes de l'Ancien Testament. L'apôtre Jean les applique à Babylone, la grande puissance qui renaîtra de ses cendres. Nouvel empire totalitaire fascinant le monde, elle est comme Ninive, dépeinte sous les traits d'une prostituée entraînant les nations dans ses débauches. Comme Ninive, Babylone sera punie pour ses crimes et connaîtra une ruine totale. Le châtiment de ces capitales est typique du jugement qui frappera tous les grands empires dominateurs de ce monde, comme Rome du temps de Jean, qui était déjà une pré-incarnation de la grande Babylone de la fin des temps. À la vision de Nahum du jugement de Ninive par l'Éternel, répond celle du cavalier de l'Apocalypse, montant un cheval blanc qui se nomme la parole de Dieu, qui combat pour la justice, et qui vient pour juger le monde et assouvir ainsi l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Les jugements de Ninive et des empires qui la suivront sont des avant-goûts du jugement final, mais aussi des avertissements nous rappelant que Dieu jugera les actions de tous les hommes. Et ce jour-là, il n'y aura aucun échappatoire possible, sauf pour ceux qui auront cherché refuge sous la croix du Christ.